Merci déjà au Centre Alain Savary de me permettre de m'adresser à vous, puisque vous savez que quand on fait de la recherche, c'est toujours un plaisir de venir s'adresser à des professionnels. On a l'impression que notre recherche sert un peu à quelque chose. Donc je suis Julien Netter, je suis un ancien enseignant. J'ai été enseignant d'abord très brièvement dans le secondaire. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes de l'éducation nationale du secondaire ici. Donc d'abord en lycée, puis comme professeur d'histoire, ensuite en collège comme documentaliste, et ensuite pendant une bonne quinzaine d'années en école élémentaire, puis en école maternelle. Donc vous voyez une espèce de descente comme ça vers la petite enfance, bien que je me sois arrêté à l'école maternelle quand même. Parallèlement à ça, je suis également père de trois enfants. Donc j'oublie de dire que j'ai été toujours enseignant en éducation prioritaire. Je suis père de trois enfants dans une ville de banlieue parisienne où je les ai scolarisés. Et il y a environ 5 ans, j'ai eu envie de me lancer dans la recherche. Donc depuis 5 ans, je travaille avec le laboratoire ESCOL qui est spécialisé dans l'étude de la construction des inégalités scolaires. Alors, ce qui m'avait frappé, c'était la difficulté pour les acteurs qui entourent l'école, c'est-à-dire pour à la fois les parents, les municipalités et les enseignants, la difficulté à coordonner leur action et même, je dirais, à se comprendre. Donc j'avais envie de travailler spécifiquement là-dessus et je m'intéresse, dans les recherches que je mène, à tout ce qui peut circuler entre l'école, les familles et également tout ce qui est périscolaire. Donc la recherche dont je vais vous parler aujourd'hui est quelque chose qui a été fait en 2010-2011 au sein de l'équipe sur les devoirs en particulier. Donc Fabienne Federini a posé un peu un cadre général et on va faire une sorte de plongée sur le terrain avec cette recherche. La recherche est exclusivement qualitative, donc ça a consisté très concrètement à aller dans des études municipales dans une ville du nord de la banlieue parisienne et à observer un petit peu ce qui se passait dans les études, observer, analyser bien sûr. Ça a été fait uniquement en école primaire, en élémentaire plus exactement. Mais on a présenté cette recherche dans des établissements secondaires et d'après les retours qu'on en a eus, les difficultés qu'on a pu observer à l'école primaire sont à peu près identiques à ce qu'on peut observer dans le secondaire. Je vais utiliser le terme de devoir dans le cours de cet exposé et devoir sera aussi bien devoir écrit que devoir à l'oral, c'est-à-dire leçon. Je ne ferai pas de différence, j'en reparlerai juste uniquement en conclusion, parce que vous verrez que les difficultés sont à peu près les mêmes. Donc ce que je vais vous expliquer, d'abord je vais partir d'un cas très pratique de différents élèves face à une leçon dans une étude, puis j'essaierai de remonter un peu en généralité sur les devoirs pour essayer de comprendre ce que c'est que les devoirs, ce qui est en jeu avec cette histoire de devoirs. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des devoirs à la maison, comment ça peut se passer dans les familles. Et enfin, pour essayer de conclure, on verra ce qui peut être fait et j'évoquerai un peu les dispositifs d'aide aux devoirs. Alors, on est un jeudi soir dans l'étude et donc avec Séverine Cacpo, dont Stéphane vient de parler, on suit des élèves de CE1. Et donc dans cette étude, il y a 7 élèves d'une classe de CE1 qui doivent faire des devoirs, apprendre une leçon. Donc grammaire, apprendre la leçon, singulier, pluriel, un ou des devant un nom. Donc on est face à une prescription qui est autorisée, puisqu'à l'école, les devoirs sont autorisés quand c'est des leçons. Et l'enseignante nous précise, Simon... L'enseignante nous précise, je leur ai demandé de s'entraîner à écrire les noms qui ont un pluriel en X. Donc ils ont à la fois une leçon à apprendre, ça c'est leur prescription officielle, et puis ils ont une deuxième prescription orale, s'entraîner à écrire les noms qui ont un pluriel en X. Alors je vous présente la leçon. Donc on démarre de quelque chose de très concret. Donc vous voyez, c'est une fiche, une fiche qui est assez classique, qui est collée dans le cahier de leçons des enfants, sur le pluriel des noms. Donc le titre de la leçon singulier flèche pluriel, donc il faut comprendre que c'est la mise au pluriel, avec un petit 3, un ou des devant un nom. Donc petit 3, ça veut dire qu'il y a un petit 1 et un petit 2 qui ont dû être traités avant, mais qu'il n'y a pas dans le cahier des enfants. Donc eux, ils démarrent directement à petit 3. Une règle générale qui est énoncée, le plus souvent S au pluriel, comme tête de chapitre, mais ce n'est pas énoncé comme étant une règle. C'est simplement la tête de chapitre. Et en dessous, quatre phrases. Un garçon écoute la radio, flèche, des garçons écoutent la radio. Donc vous comprenez bien le principe. Hein, on prend la phrase puis on la met au pluriel. Et en dessous, une fille écoute la radio, flèche, des filles écoutent la radio. Alors, cet exemple, il est un peu compliqué, ce premier exemple, parce que un garçon devient des garçons. Alors, ça ne devient pas un garçon, mais des garçons. Donc déjà, ce n'est pas S au pluriel. Alors effectivement, garçon, on retrouve un S, mais en revanche, écoute, on se retrouve avec NT. Donc, il y a quelque chose d'un peu troublant déjà dans ce premier exemple. Et puis en dessous, on passe à une fille écoute la radio. Donc là, tout à coup, on a l'idée de masculin-féminin. Donc, sans doute que pour les concepteurs de l'affiche, il y avait une idée derrière ça, et ils n'ont pas fait ça pour rien. En effet, quand on cherche dans le cahier des enfants, on se rend compte que deux semaines avant, ils avaient la leçon sur masculin-féminin. Donc c'est une façon de réviser ce qui a été fait avant. Mais vous voyez que pour arriver à comprendre cet exemple, il faut déjà qu'il y ait eu un sacré travail en classe dessus, on va dire, un travail sur la leçon vraiment très, très conséquent et que les enfants aient très bien compris. En dessous, deuxième petit paragraphe, quelquefois X, un château des châteaux, un cheval des chevaux, un travail des travaux, des choses que vous avez tous appris à l'école. Et donc là encore, ce sont des exceptions à la règle générale, mais sans que ce soit indiqué. Donc on voit que quelquefois le pluriel est en X, mais on ne sait pas bien pourquoi finalement, parce qu'il n'y a aucune règle dans tout ça. Donc sans doute que pour les concepteurs de la leçon, là encore j'essaye de refaire de repenser à ce qu'ils ont voulu faire, sans doute que pour les concepteurs de la leçon, il y avait l'idée qu'il faut faire prendre conscience aux élèves qu'il existe des exceptions à la règle générale. Et en dessous, point d'exclamation, attention danger, une souris flèche des souris, un prix flèche des prix, un nez flèche des nez. Donc là, vous voyez des invariables. Donc je vous rappelle leur consigne officielle, leur prescription officielle, apprendre la leçon. Deuxième prescription, s'entraîner à apprendre les mots qui ont un X au pluriel. Alors, que font les enfants dans l'étude? Ah oui, voilà ce que leur dit l'enseignant. Donc, dans l'étude, les enfants, quand ils arrivent, sortent tous leur cahier de texte, regardent ce qu'il y a écrit, prennent une feuille et commencent tous à écrire. Donc, j'en observe quatre. Un premier, Elias, n'a pas de feuille. Donc, il a pris une page de son cahier de texte et puis il écrit des petites pattes de mouche. Il est en train de recopier un château des châteaux, un cheval des chevaux, etc. Bon. Et puis, il n'y arrive jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une erreur dans ce qu'il est en train de recopier. Donc, il barre tout, il recommence en dessous à écrire. À la fin, ça finit par l'énerver. Il déchire sa feuille, il la jette dans son cartable, il en prend une autre et il recommence. Un autre élève, derrière lui, Fad, a son cahier de brouillon et donc fait la même chose, mais sur son cahier de brouillon. Et puis, deux enfants qui sont au premier rang, Abdallah et Wissam, ont décidé de travailler ensemble. Donc, ils ont chacun leur ardoise et ils se dictent les mots. Il y en a un qui dicte à l'autre toute la liste de mots. Donc, vous voyez, il y en a 10. Donc, à la fin, ils se mettent une note sur 10. Et puis, c'est à l'autre de dicter les mots au premier. Alors, un peu étonné, je leur demande ce qu'ils ont à faire. Donc, quels sont les devoirs? Donc, pour Elias, le premier, il faut savoir écrire 5 mots. Donc, aucune référence à la leçon. Il faut simplement savoir écrire 5 mots. Abdallah, qui est en train de dicter avec son ardoise, il y avait des mots. En fait, c'était une dictée. Comme pour une dictée, on doit, à l'école, on va avoir une dictée. Donc, pour les enfants, la tâche est vraiment clairement identifiée. Il ne s'agit pas d'apprendre une leçon. Donc je leur demande si quand même il n'y a pas un petit lien avec la leçon et, si, et quel est le statut de ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour Eliès, aucun lien. La leçon, il ne sait même pas de quoi ça parle. Alors pour Fad, en revanche, il y a un lien. Par exemple, un château, on mettra des châteaux avec un X. Par exemple, donc là je me dis, bon, ça va, il a compris qu'il y avait un lien avec singulier pluriel. Par exemple, le contraire de 7, c'est « c'est le contraire des déterminants, et le contraire de « le », c'est « les ». Au singulier et au normal, ben, c'est pareil. Ça, c'est par exemple « un garçon écoute la radio », et le contraire, c'est « des garçons écoutent la radio ». Et pour Abdallah et Wissam, c'est pareil. Il y a un mot, il y a le contraire, il y a un château, des châteaux, juste parce qu'on rajoute « x », et en fait, ça, ça change. Donc vous voyez que ces élèves sont en train... d'établir un lien finalement, enfin de recréer une leçon, non pas du tout à partir de ce qu'il y a au-dessus sur leur feuille, ce qu'il y a au-dessus sur leur feuille ne les préoccupe pas, mais à partir de ce qu'ils ont en tête et de ce qu'ils peuvent induire des mots qu'ils sont en train d'écrire sur leur cahier. Donc je leur demande quand même ce que c'est que cette histoire de singulier pluriel. Ça, est-ce qu'ils ont compris ce que c'était? Et Abdallah me dit... Alors, le pluriel, ça veut dire un stylo. Un stylo, il est à toi, ben, un stylo à toi et des stylos. Si, on trouve, si je trouve un stylo par terre, il est à personne, parce qu'on ne sait pas, mais si je trouve, si c'est ton stylo, tu as plein de stylos, quoi, des stylos, c'est à toi, ça veut dire. Donc, que montre ce cas? Alors, il me semble que ça montre plusieurs choses. Tout d'abord, ça montre que les devoirs, même s'ils ont l'air totalement inoffensifs, comme c'est le cas pour ces devoirs-là, c'est-à-dire des devoirs dont on pourrait dire que tout le monde est capable de les faire faire à ses enfants, en fait, les devoirs posent des très gros problèmes aux enfants et qui sont généralement méconnus. Alors, ici, on peut serrer deux séries de problèmes. D'une part, les notions posent de très gros problèmes aux enfants. Là, ces enfants sont censés apprendre une notion, la notion de singulier pluriel, au moins, parce qu'il y a peut-être derrière aussi le nom, enfin, il y a plusieurs séries de notions. Mais en tous les cas, ils étaient censés travailler sur singulier et pluriel, et on voit que ça, ce n'est pas du tout clair pour eux. On pourrait reconstituer un petit peu ce qu'ils en imaginent en disant que, en gros, on prend un mot, on rajoute un X, ça fait le contraire, ou le pluriel, c'est un peu la même chose. Mais pas un S, hein, un X. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est sur l'interprétation des consignes. On voit que interpréter les consignes n'est pas du tout quelque chose d'évident. Et en particulier, cette histoire de apprendre une leçon, qui était la consigne officielle, et qu'on retrouve dans une consigne sur deux dans les cahiers de texte de CE1 qu'on a étudié, apprendre une leçon, c'est très difficile, parce que c'est polysémique. Apprendre, ça peut vouloir dire apprendre par cœur, ça peut vouloir dire s'approprier et savoir réutiliser autrement, ça peut vouloir dire comprendre et redire en ses propres termes, et ça peut vouloir dire un mélange de tout ça. Généralement, c'est un petit mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie à apprendre par cœur, une partie à comprendre, une partie à savoir redire. Et sans que les différentes parties soient nécessairement balisées. Donc c'est très difficile. Alors, deuxième série de choses qu'on peut tirer de ce cas, c'est qu'il me semble que ces élèves n'ont pas très bien compris ce que c'était que faire des devoirs, ni ce qu'on attendait d'eux vraiment à l'école. À l'école, on a toujours des notions qui sont contextualisées dans des exercices ou des exercices qui sont décontextualisés dans des notions. Il y a un aller-retour entre les deux, entre notions et exercices, et les exercices ne servent que à asseoir des notions. Ici, ces élèves se lancent dans une tâche. C'est-à-dire que l'idée de notion, elle est très absente de tout ça. Ils n'ont pas compris qu'il leur fallait apprendre quelque chose, et ils n'ont pas non plus compris le statut de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que les pluriels en X, pour eux, ça ne fait pas partie d'une leçon plus générale. Enfin, troisième série de choses que l'on peut retirer de ce cas, c'est que vraisemblablement, l'enseignante, en prescrivant ses devoirs, ne se rend pas compte de la difficulté de ce qu'elle est en train de donner. Parce qu'elle prescrit quelque chose qui est très difficile à faire et sans forcément en avoir conscience. Le lendemain, quand les enfants reviennent en classe, on se rend compte que finalement, ils connaissent assez bien leur enseignant. Parce que fait l'enseignante ? Elle fait une dictée. Et elle leur dicte uniquement des noms qui font leur pluriel en X. Donc, finalement, ils ont peut-être bien interprété la consigne. En revanche, il n'est pas du tout sûr que ça leur soit profitable scolairement par la suite. Voilà. Mais des enfants qui auraient pu faire ces devoirs chez eux, avec un adulte assis à côté d'eux, qui les fasse travailler en leur donnant le sens de la leçon, pour cela, peut-être que ça pourrait être profitable. Pour comprendre un peu cette histoire, il me semble qu'il faut revenir à ce que c'est que les devoirs. Alors, les devoirs, on peut le formaliser ou essayer de le formaliser en parlant d'une circulation entre trois milieux, l'école, parfois l'aide aux devoirs et la famille. Et ce qui circule avec le cartable, c'est un élève qui porte une prescription, qui porte des devoirs. Mais concrètement, la prescription, c'est une tâche. C'est une tâche qui est toujours raccordée à une notion qui a été travaillée en classe. Donc il y a toujours un lien entre les devoirs et la classe. Ce lien, il est plus ou moins fort pour certains enfants, c'est-à-dire que certains enfants identifient plus ou moins la notion qui a été travaillée en classe et à laquelle il doit faire référence. Et les élèves sont toujours liés à leur famille, c'est-à-dire que les élèves sont porteurs d'une socialisation familiale en permanence, y compris à l'école, bien sûr. Et donc, vous voyez que on se retrouve avec un couple élève-devoir qui se promène entre trois milieux tout en étant toujours raccordé d'une part à l'école et d'autre part à la famille. Or, les socialisations familiales ne sont pas toutes équivalentes face aux devoirs. Alors, il y a plusieurs critères qui changent d'une famille à l'autre et qui changent selon le milieu social de la famille, bien sûr, selon la position sociale de la famille. Alors, l'importance de l'écrit est un exemple. On n'accorde pas dans toutes les familles la même importance à l'écrit. La façon d'encadrer les enfants, la façon de jouer avec eux, la façon de poser les problèmes ou de poser les questions sont autant d'éléments qui changent énormément d'une famille à l'autre. Une chercheuse américaine à la fin des années 70 a travaillé et elle est restée 4 ou 5 ans dans une école et elle a fait quelque chose qui était assez intéressant, donc qui s'appelle Heath. Elle a observé ce qui se passait dans les classes et elle est allée dans les familles voir comment les enfants se comportaient dans les familles. Et ensuite, elle est allée dans les familles des enseignants voir comment les enseignants se comportaient avec leurs propres enfants. C'est un peu pervers, mais très intéressant quand même. Et elle est arrivée à l'idée qu'on parle différemment aux enfants dans certaines familles et à l'école. Et elle a montré ça en particulier sur la façon de poser les questions. En effet, à l'école, les enseignants posent des questions bizarres puisqu'ils connaissent déjà les réponses. Or, dans les familles du quartier noir américain où elle est allée, enfin du quartier américain où la population noire est très majoritaire, où elle est allée, on pose au contraire des questions pour demander des choses aux enfants, pour demander des choses auxquelles on ne connaît pas la réponse. Et donc, elle s'est retrouvée dans une famille où la mère demande à son enfant, mais enfin, la maîtresse dit que tu ne participes pas, pourquoi est-ce que tu ne participes pas? Et l'enfant répond, mais les questions de la maîtresse sont bêtes. C'est des questions bêtes. Je ne vais quand même pas répondre. Elle connaît déjà, elle sait déjà, donc ça ne sert à rien. Et je trouve que ce travail est très intéressant. Et ça m'a frappé parce que je suis allé faire des observations à Paris, dans le 5e arrondissement, donc plutôt dans les beaux quartiers. Et comme observateur, moi, je pose des questions auxquelles je n'ai pas forcément la réponse. C'est-à-dire que je m'assieds avec les enfants et je demande aux enfants des choses sur ce qu'ils pensent de ceci, ce qu'ils pensent de cela. Donc là, on était au réfectoire. Et j'étais en train de discuter donc avec trois élèves de CE2. Et à la fin de la discussion, il y en a une qui me regarde en me disant « Mais elles sont bizarres, tes questions. » Je dis « Ah bon ? » ?»« Oui, on dirait que t'es idiot. » Ah oui ? Et alors, effectivement, pour elle, c'était exactement le contraire, si vous voulez. C'est-à-dire que, comme je posais des questions et que je n'avais pas les réponses, elle pensait que j'étais vraiment complètement idiot, puisque normalement, des adultes, quand ils posent des questions, ont les réponses. Donc, mes questions étaient bizarres. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte. C'est des choses qui sont totalement imperceptibles. Mais pourtant, il existe des différences dans les socialisations familiales qui sont très importantes et qui ne sont généralement pas prises en considération à l'école. Pourtant, les enseignants, je pense, sont tous de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils veulent tous faire réussir leurs élèves. Mais on se rend compte qu'ils sont souvent démunis, en fait. Et dès la maternelle, les écarts commencent à se creuser entre les élèves. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est un exemple très classique que j'emprunte à un chercheur du laboratoire Escol, qui est l'exemple d'Amidou. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà, parce qu'il est très médiatisé. Donc, c'est un élève de 6e qui est en cours de géographie et son enseignante lui présente une carte de France qui est une carte de France de relief. Voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit celle-là, mais enfin, elle a à peu près cette tête-là. Donc, une carte de France du relief avec les différents reliefs. On peut voir ce qui est entre 0 et 500 mètres, entre 500 et 1000 mètres, etc. Et l'enseignante montre aux enfants qu'on peut construire une légende à partir de ça et fait colorier entre 0 et 500 mètres. On colorie tous en vert, donc tout le monde colorie en vert. Entre 500 et 1000 mètres, on colorie en marron. Bon. Donc Stéphane Bonnery du laboratoire Escol est assis à côté d'Amidou et l'observe et voit que Amidou fait ça très très bien. Il est très concentré sur son travail, il colorie très très consciencieusement. Bien sûr, l'enseignante explique que il faut tenir compte de la légende, que ce qui est important c'est la légende, mais au moment où elle explique ça, Amidou n'écoute pas tant que ça, parce qu'il est concentré sur son coloriage. Autrement dit, si j'essaye de faire un rapprochement avec ce que je disais tout à l'heure, il est vraiment dans la tâche et pas tellement dans l'activité. Et à la fin de l'heure, l'enseignante annonce, pour la prochaine fois, interrogation de géographie, donc vous réviserez la carte de France du relief. Okay, bon. Donc Amidou part à l'aide au devoir, réviser la carte de France du relief. Et à l'aide au devoir, il révise, il apprend sa carte de France du relief, il l'apprend même très bien. Séance suivante, il revient en cours et l'enseignant distribue le sujet d'interrogation, carte d'Italie du relief. Donc il faut remplir la carte d'Italie, exactement sur le même principe, une légende entre 0 et 500 mètres, entre 500 et 1000 mètres. Et Amidou, tétanisé, ne fait rien. Donc Stéphane Bonnery lui demande « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait ?»« Ah ben, moi, j'ai appris la carte de France du relief. Et là, on ne me donne pas la même chose, on me donne la carte d'Italie. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas le faire. » En revanche, il y a d'autres enfants qui y arrivent dans la classe. D'autres enfants qui ont appris la carte de France, mais qui ont compris que c'était une légende et qu'il fallait utiliser la légende, et qui donc sont capables de transférer cette connaissance à autre chose. Donc, ils ont compris qu'il y avait une notion derrière. Mais pour Amidou, s'ils ont réussi, alors qu'ils n'avaient que la carte de France, c'est obligatoirement que l'enseignante leur a donné le sujet avant. Et elle constate, qui plus est, que ceux qui ont réussi, ils sont tous blancs, et donc ils pensent que l'enseignante est raciste. Donc vous voyez comment les malentendus vont se nicher et sur quoi ils peuvent déboucher. alors que on est face à une enseignante qui souhaite faire réussir ses élèves, met les choses en place pour le faire. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'avec les devoirs, il y a des difficultés qui sont très souvent sous-estimées et qui sont même pas imaginées par les enseignants, souvent. Les devoirs à la maison. Alors, je vais revenir en arrière. À la maison, ce qu'on pourrait dire pour commencer, c'est que toutes les familles, à l'école élémentaire en tout cas, sont tout à fait impliquées dans la réalisation des devoirs à la maison. Il y a des statistiques de l'INSEE qui datent de 2005. Alors, il y a deux séries de statistiques. Il y en a une qui date de 1995 et une de 2005. Donc, je pense qu'ils ont l'air de vouloir faire ça tous les 10 ans. Il va peut-être y en avoir cette année, j'en sais rien. Qui montrent que les mères, c'est généralement les mères, hein, les mères d'élèves consacrent quasiment une heure de leur temps à l'école élémentaire par jour de classe à aider les enfants à faire les devoirs, à aider tous les enfants d'une fratrie. Donc une heure de temps, je ne sais pas si vous voyez, ça représente quasiment un deuxième boulot. C'est quelque chose d'énorme, c'est massif. Donc il y a cette première statistique, et si on l'affine un petit peu, on voit que moins les mères sont diplômées, et plus elles consacrent de temps à aider les enfants à faire leurs devoirs. Alors on peut interpréter ça de plusieurs façons. D'une part, parce que c'est plus dur pour elles, et donc peut-être qu'elles passent plus de temps, ça leur prend plus de temps. D'autre part, parce que peut-être l'enjeu est encore plus grand. C'est-à-dire que la volonté de faire réussir les enfants quand on est moins diplômé et de leur permettre d'accéder à un diplôme peut apparaître comme un enjeu très très important. Autrement dit, l'idée de démission des parents est très largement un mythe. 90% des familles souhaitent que les familles, tous milieux sociaux confondus, souhaitent que leurs enfants fassent des études supérieures. Donc les parents ont tous envie que leurs enfants réussissent à l'école. Alors ça ne veut pas dire que tous les parents sont outillés pour aider leurs enfants à réussir à l'école. Et c'est là qu'il y a un grand décalage, bien sûr. Alors je vais vous en montrer un exemple. Alors, c'est un extrait d'observation d'une étudiante de Master 1. Donc, elle se rend dans une famille pour observer une fille qui fait ses devoirs, puis elle se retrouve face à la fille toute seule, c'est-à-dire que la mère n'est pas rentrée, et donc elle se retrouve à aider la fille à faire ses devoirs, alors qu'elle va pour l'observer, mais bon, c'est les risques du terrain. Et donc, elle relate, « La mère me confie que Nadia est punie quasi quotidiennement à l'école et qu'elle ne sait pas comment faire. » Je l'ai vu, la maîtresse, elle dit que je dois être sévère, que je dois plus m'en occuper, mais ici elle est sage, je ne vais pas crier pour rien, non ? Donc je lui demande si elle aide pour les devoirs, elle me répond qu'elle vérifie tout. Et elle s'approche de la table où nous avons fait les devoirs, s'empare du cahier de leçons, l'examine consciencieusement et dit à la petite « c'est bien ma fille », puis repose le cahier. Donc là, vous voyez une mère qui est face à l'injonction qui émane très souvent de l'école, qui est de suivre le travail des enfants. Hein ? Très souvent, c'est quelque chose qu'on entend dans la bouche des enseignants. Si vous ne pouvez pas l'aider, ce n'est pas grave, mais il faut au moins vérifier ce qui a été fait, il faut lui montrer que vous vous intéressez. Plus tard, elle me confie à voix basse qu'elle ne sait pas lire et fait semblant de vérifier. Elle voudrait bien aider sa fille, mais leurs leçons, là, ce n'est pas possible de les comprendre. Alors, je vérifie, mais je sais que ça ne sert à rien, je ne peux pas l'aider, ce n'est pas possible. Et donc, je ne sais pas si vous voyez la souffrance de cette mère qui se retrouve ne sachant pas lire et à faire semblant de suivre le travail de sa fille, la fille qui évidemment n'est pas dupe, sait très bien que sa mère fait semblant et qui donc l'amène en bateau dans les grandes largeurs. Donc vous voyez que ça amène sur des situations familiales qui peuvent être très douloureuses, très compliquées. Tout à l'heure, on disait que les parents avaient facilement accès à l'école maternelle, puis que c'était de plus en plus compliqué. Au début, quand les parents arrivent à l'école maternelle, ils sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt contents d'avoir un lien avec l'école. Et puis, au fur et à mesure, ça peut se gâter. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui restent en contact avec l'école, puis il y a des parents pour lesquels c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que certains parents, le discours de l'école n'est pas le même envers tous les parents. Pour certains... c'est plutôt de l'ordre de la convocation. C'est-à-dire que les enfants ont des problèmes, souvent des problèmes de comportement, et puis on les convoque parce qu'il y a un problème de comportement avec l'enfant. Et là, il y a une forme de méfiance qui s'instaure entre l'école et les parents, et à mon avis, bien avant le collège. C'est-à-dire que dès l'école maternelle même, ça commence. Et pour certains parents, il y a une violence. Il y a une violence de l'école, une violence de l'institution qui est non négligeable. Et vous voyez que cette violence peut perdurer, y compris à la maison, avec l'injonction au partenariat qui est fait à certains parents sans qu'on leur en donne les moyens, enfin sans qu'ils en aient les moyens. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'expliquer aux parents comment faire une leçon de grammaire avec leurs enfants. Pourtant, certains parents se saisissent de cette nécessité d'aider les enfants. Et je vais vous en présenter un exemple avec le travail de Séverine Cacpeau. Donc c'est une observation. Séverine Cacpeau est allée dans les familles voir comment les familles faisaient les devoirs avec les enfants, et en particulier dans les familles populaires. Donc Augustine est une tante qui aide sa nièce à lire, donc Augustine A et Priscilla P. Et elles sont devant une lecture, et donc Séverine a travaillé sur la lecture et a montré que en fait la lecture qui peut paraître simple pose en réalité de très très grandes difficultés aux familles. Donc Augustine, sur un ton professoral, on va lire. Lis-moi ça un peu pour que je vois comment tu lis. Allez, on y va. Alors, Priscilla n'a pas l'air très contente de faire les devoirs avec sa tante, mais commence. Vol de bijoux. Non. En principe, je t'ai expliqué qu'il faut mettre la main pour pouvoir bien suivre. Je ne fais pas comme la maîtresse. Ce que je fais, c'est pour voir si tu enregistres bien les sons, si tu regardes bien, parce que tu ne travailles pas pour manger la majeure partie des mots. Allez, on commence à lire. Allez. Non. Priscilla, qui suit avec son doigt, vol de bijoux à l'hôtel Métropole. D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le E. Ça ne va pas. Métropole, le. Voilà. Donc, là, vous voyez, Augustine, en essayant d'aider sa nièce, se retrouve dans à créer ce que Séverine Cacpeau appelle une didactique familiale. Elle l'oblige à suivre avec le doigt en prononçant les E muets. Alors, peut-être que ça aurait pu l'aider si elle était en CP. Mais là, elle est en sixième. On lui demande de comprendre le sens d'un texte. En suivant avec le doigt et en prononçant les E muets, elle va être totalement incapable de comprendre le sens du texte. C'est-à-dire qu'elle est concentrée sur le décodage et sur bien suivre au bon endroit avec le doigt, ne pas aller trop vite. Enfin, bon. Donc, finalement, elle se retrouve face à des pratiques qui l'empêchent de faire le réel travail qui est demandé. Vous imaginez, on aurait plein d'exemples, vous imaginez que les devoirs tels qu'ils sont prescrits peuvent donc amener de très grandes tensions dans les familles. Et j'ai parlé des familles de milieux populaires, mais également dans les familles de milieux plus favorisés. Alors, si je reviens un petit peu vers le cas de l'aide aux devoirs. Finalement, l'aide aux devoirs apparaît comme une forme de politique de compensation. Ce serait un milieu qui apparaîtrait en substitution des familles qui ne sont pas capables d'aider leurs enfants à faire les devoirs. C'est généralement comme ça que c'est présenté, l'aide aux devoirs. On se rend compte au sein même des dispositifs qu'on a observés que c'est très compliqué. C'est très compliqué, ces dispositifs. Il y a quelques études quantitatives qui ont été menées sur les dispositifs d'aide aux devoirs et qui montrent qu'ils ont une efficacité qui est très limitée. Alors là, je vous renvoie aux travaux de Dominique Glasman. Il y a un rapport en ligne dans lequel il y a, pour le Haut Comité à l'éducation, dans lequel il y a tout un chapitre sur l'évaluation de ces dispositifs. Et ce qu'on voit, en gros, c'est qu'il y a des résultats qui sont un peu contradictoires. Il semble qu'il y ait des petits effets, mais très limités, très ténus, et que globalement, il n'y ait pas d'effet positif des dispositifs. Donc quand on regarde les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'effet, on voit d'une part qu'il y a le problème du nombre d'enfants dans les dispositifs. Alors là, on a observé des études qui étaient dans une configuration très très favorable, c'est-à-dire qui sont limitées à 14 enfants par étude, ce qui est peu. Il y a des études avec beaucoup plus d'enfants. Mais 14 enfants par étude, c'est 4 minutes par enfant, 4 minutes de temps disponible par enfant pour les encadrants. Généralement, il y a les montées, descentes. Allez, on va tomber à 3 minutes de temps libre. Alors 3 minutes de temps libre pour un enfant qui sait faire ses devoirs tout seul, c'est parfait. Donc en gros, les dispositifs fonctionnent très bien pour les enfants qui n'en ont pas besoin. Mais pour les enfants qui ont des gros problèmes, 3 minutes, c'est totalement insuffisant. C'est-à-dire que 3 minutes, ça permet d'expliciter la consigne et d'aider à faire la tâche. Mais ça permet très difficilement de revenir sur les notions qui sont derrière. Et donc, ça peut aider les enfants à avoir fait leur devoir, c'est-à-dire à être en conformité avec l'institution. Mais en termes scolaires, être en conformité avec l'institution, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire, en termes scolaires, ce qui compte, c'est justement la décontextualisation vers les notions et la contextualisation des notions vers les exercices. Et là, en 3 minutes, on ne peut pas. Donc, les intervenants, et j'ajoute que les études qu'on a observées sont uniquement tenues par des enseignants. Et les enseignants apparaissent comme beaucoup mieux outillés que d'autres intervenants pour tenir les études et pour mener les études. Parce qu'ils ont un certain nombre de gestes professionnels qui les aident beaucoup, notamment comprendre quelles sont les notions derrière, ils le voient très rapidement, maîtriser ces notions et avoir une idée de la façon dont on les enseigne, ils le voient aussi assez rapidement. Alors, ils ne sont pas toujours parfaitement au point sur l'analyse des difficultés des élèves, qui apparaît comme un geste professionnel qui est un petit peu différent de ce qui se fait en classe. Mais enfin, bon, ils ont quand même des... On va dire, ils ont un certain nombre d'outils. Malgré ça, ça reste très difficile parce qu'ils ont un temps imparti qui est assez limité. Alors voilà ce que nous dit un intervenant de l'aide aux devoirs. Bah, par exemple, si je prends le cas de Jordan, il avait strictement rien compris à ce qu'il fallait faire. Donc là, bah, il faut prendre 10 minutes, bon, 5 minutes, et puis expliquer ce que c'est, parce que sinon on fait l'exercice à sa place en fait. Même si on l'aide ponctuellement sur l'exercice, il ne va rien comprendre. Il faut tout reprendre avec lui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout reprendre avec les 15 enfants, parce que... Voilà. Or, dans les dispositifs d'aide aux devoirs qu'on a observés, les enfants ont des difficultés très importantes. C'est-à-dire que très souvent, les enseignants conseillent aux enfants qui ont le plus de difficultés d'aller à l'aide aux devoirs, ce qui peut paraître logique, puisque à la maison, a priori, ils n'ont pas forcément des parents qui sont en mesure, en capacité de les aider. Mais le problème, c'est que du coup, à l'étude, non plus. Il n'y a plus le temps matériel d'aider les enfants. Donc, voilà, l'efficacité est un petit peu limitée, on va dire, en tous les cas, en termes scolaires. Alors, on pourrait reparler de cette histoire d'interdiction des devoirs. Après tout, à l'école élémentaire, en tout cas, pas au collège, mais à l'école élémentaire, les devoirs sont interdits. Les devoirs écrits, j'entends. Oui, les devoirs sont interdits. Mais ils ont été interdits en 1956, et pourtant, on en a observé dans toutes les classes. Donc on peut penser que cette interdiction a peu de chances d'être mise en pratique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en 1956, quand les devoirs écrits ont été interdits et que les leçons sont restées autorisées, les leçons, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Une leçon en 1956, c'était beaucoup plus apprendre par cœur, alors qu'aujourd'hui, une leçon, c'est beaucoup plus comprendre et être capable de réexpliquer. Et ça pose finalement beaucoup plus de difficultés aux enfants. Et vous voyez que les enfants de l'étude que je vous ai présentée, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils préfèrent se tourner directement vers l'écrit. Pour eux, la leçon, c'est trop dur. Et oui, puisqu'ils n'ont personne pour leur expliquer, à l'étude, ils sont face à leur travail. Alors il y a bien un enseignant au loin qui supervise l'étude, mais ils n'ont pas quelqu'un pour venir leur réexpliquer la leçon. Et donc c'est en réalité totalement infaisable. Donc apprendre une leçon ça a été réaffirmé, hein, ça a été réaffirmé par le ministère, cette histoire que les devoirs écrits étaient interdits, mais que les leçons étaient autorisées. Moi, je pense, c'est un avis tout à fait personnel, je pense que la priorité est exactement inversée. C'est-à-dire que les leçons devraient être interdites et les devoirs écrits, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui circule en même temps entre les familles et l'école, c'est aussi une demande des parents, il y a tout un tas de, on va dire, bonnes, entre guillemets, qui sont plus ou moins bonnes raisons pour que les devoirs perdurent. C'est ce que Patrick Rayoux appelle un compromis. Voilà, c'est un compromis social, les devoirs, c'est la seule chose dans l'école républicaine très cloisonnée, comme Fabienne Federini nous l'a rappelé, dans l'école républicaine très cloisonnée, c'est la seule chose qui circule vraiment entre les familles et l'école, les devoirs. Donc ça répond, on va dire, à quelque chose. Donc moi, je crois pas qu'on puisse interdire les devoirs. En revanche, interdire les leçons, ce serait peut-être mieux. Mais bon, là, il se trouve que c'est les devoirs écrits qui sont interdits. À partir de ce tableau finalement pas forcément optimiste, que peut-on espérer et que faire? Voilà. Moi, il me semble que c'est essentiellement à partir du terrain qu'il peut y avoir une évolution, en demandant aux enseignants, mais c'est quelque chose de très difficile, que les devoirs soient faisables. Je crois qu'il y a une réflexion à avoir, et là, la notion de partenariat, je crois, prend tout son sens. C'est qu'il y a une réflexion à avoir avec les enseignants sur ce que c'est que des devoirs que les enfants peuvent réellement faire. En général, les enseignants ne voient pas leurs propres élèves faire les devoirs. Ils n'ont donc pas d'idée des difficultés que les élèves rencontrent en faisant les devoirs que eux-mêmes prescrivent. Or, quand on leur montre les difficultés que les devoirs qu'ils ont prescrits suscitent chez leurs élèves, là, tout à coup, on commence à pouvoir avoir une discussion intéressante sur leurs prescriptions. En plus, souvent, peut-être que je vais généraliser abusivement, mais il arrive que les devoirs soient prescrits au dernier moment, à la dernière minute, le soir. Ah bah il faut donner quelque chose à faire, tiens bon bah vous réviserez la leçon du jour, bon, sans que ce soit vraiment pensé. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire à mon avis sur la prescription, mais je dirais que c'est la seule chose quasiment à faire. C'est-à-dire qu'ensuite, la réflexion sur la teneur des dispositifs, c'est mettre une rustine sur un très gros trou. Donc c'est de peu d'efficacité. En revanche, Les dispositifs d'aide aux devoirs constituent un observatoire exceptionnel des difficultés des enfants. Et donc, les partenaires de l'école peuvent avoir un rôle à jouer en ce sens, dans l'observation des difficultés des élèves, dans leur analyse et dans le fait d'en informer les enseignants. C'est une voie, en tous les cas, qui me semble prometteuse. Évidemment, en prenant des pincettes, parce que les enseignants n'aiment jamais tellement qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Et à mon avis, en évitant deux écueils. Un premier écueil qui est la culpabilisation. Voilà. Moi, je pars du principe que les professionnels, quels qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient, font leur métier le plus consciencieusement possible et que quand il y a des dysfonctionnements, c'est quelque chose dont ils n'ont pas conscience. Donc, il s'agit non pas d'aller faire la leçon aux uns ou aux autres, mais plutôt de leur donner des moyens, de les aider. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième écueil, c'est la déresponsabilisation. Malgré tout, il y a quand même une responsabilité des uns et des autres, et je crois qu'il y a un moment où il faut le dire, même en y mettant les formes, de façon à ce que cette situation qui quand même perdure depuis très longtemps, hein, je crois, évolue un petit peu. Voilà, je vous remercie.